On est tombé plusieurs fois sur des fournisseurs incapables de nous certifier ou de nous donner l'origine géographique pour des, par exemple, pour des végétaux qui ont été transformés et qui composent un ingrédient.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast Beauté et Bien-être. Aujourd'hui, je reçois Morgane Eberlé. Avec Maude, son amie d'enfance, elle a créé Wake Me Up Paris, une marque de cosmétiques simples, éthiques et esthétiques. Dit comme ça, ça a l'air fastoche, mais vous verrez que tout n'a pas été si évident. Avec Morgane, on a parlé de sourcing, d'ingrédients naturels, mais pas toujours respectueux de la biodiversité, de choix et de développement de jeunes marques en période de Covid. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster.
Bonjour Morgane.
Bonjour Chantal.
Morgane, quel est votre parcours ?
Alors, mon parcours. Alors, je suis financière de formation et je travaillais en fait en finance de marché dans un fonds d'investissement avant de lancer la marque. Donc, loin des cosmétiques. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. En fait, j'ai toujours voulu me lancer en fait dans le grand bain de l'entrepreneuriat depuis que je suis plus jeune, depuis que je suis toute jeune. En fait, je dis que je vais me lancer, mais voilà. Mais pour autant, en fait, rien ne me destinait à évoluer dans l'industrie cosmétique.
Ouais, c'est ça. Justement, qu'est-ce qui, voilà, vous étiez une beauty addict. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer une marque de cosmétiques finalement?
Alors, en fait, c'est assez rigolo parce que beauty addict, oui. En fait, je collectionnais surtout les box beauté à l'époque parce que j'aime bien, j'aime la nouveauté, j'aime découvrir les choses. Et pourtant, en fait, paradoxalement, j'ai toujours eu et j'ai toujours recherché à avoir une routine beauté hyper simple. Je suis pas en fait la nana qui reste 3 heures dans la salle de bain le matin. J'aime bien que les choses aillent vite et que ce soit efficace. Et en fait, j'ai commencé en fait un peu comme tout le monde à m'interroger en fait sur la manière dont on consommait, mais que ce soit en fait sur l'alimentaire ou les cosmétiques ou plein d'autres choses. Et en fait, ça a été une grosse prise de conscience pour moi. Parce que, en toute honnêteté, il y a encore 10 ans, c'est pas des problématiques sur lesquelles je m'arrêtais. Alors, on fait toujours.
Je vous rassure, personne ne s'arrêtait là-dessus il y a 10 ans, hein, ouais. Quasiment.
Voilà. Voilà, mais c'est vrai que les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles, plus jeunes. Bon. Et en fait, voilà, bon, une grosse prise de conscience. Et en fait, pour mes achats cosmétiques, ce que je faisais souvent, c'était déjà, je les achetais en fait entre le métro et le boulot, c'est-à-dire sur la parapharmacie que je croisais. Je prenais les produits sur lesquels on trouvait des jolis labels bio ou des grands titres marketing qui vendaient le produit qui paraissait correspondre en fait à mes attentes et à mon côté et à la recherche du produit, voilà, qui me permettrait d'aller vite dans ma salle de bain, que ce soit efficace et sur lequel je ne prends pas de risque. Bon.
Ouais.
Et du coup, dans cette prise de conscience, j'ai commencé en fait à chercher à aller plus loin, à regarder comme tout le monde la composition de ces produits, à essayer de comprendre. Et là, c'était un gros flou total. C'est une liste interminable. Enfin bon, bref, on a tous fait les frais d'essayer de lire ces
listings qui.
Ouais, des listings qui. Bon, j'ai malgré tout fait les recherches. Et puis là, alors on tape sur Internet, on trouve sur des trucs alarmistes. L'ingrédient qui est, enfin voilà, il y avait la médiatisation, c'est sur les perturbateurs endocriniens à l'époque. Enfin bref, une catastrophe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans la salle de bain, on finit tout, on jette tout et puis on recommence à zéro. Bon, je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Et puis moi, il y avait autre chose qui me dérangeait sur les produits que j'achetais. C'était souvent des produits en fait que je cachais plus dans le tiroir plutôt que le faire en fait trôner à côté de mon lavabo, parce que c'était souvent en fait des packs en plastique avec des grosses fleurs vertes dessus, et franchement j'aime bien la déco et dans la salle de bain ça matchait pas, quoi. Donc c'était souvent sous le tiroir, voilà, donc c'est pas très engageant.
Non, c'est sûr.
Voilà, et puis, donc ça tombait en fait en plein au moment où en fait je recherchais aussi j'avais besoin d'un nouveau challenge aussi professionnellement. Donc ça tombait bien. Et puis avant ça aussi, je suis passée aussi par la cosméto do-it-yourself dans ma cuisine.
Oui.
Voilà. Et là, c'était une catastrophe. Au bout de 3 mois, mon frigo et mes tiroirs étaient remplis de produits, de matières premières. Et en fait, j'allais complètement à côté de ce que ma démarche initiale qui était de consommer mieux et moins. Voilà. Donc en fait, tout tombait à pic. Et puis en fait, avec Wake Me Up, j'ai réussi à trouver un sens et une démarche en fait qui me correspond.
Ouais. Et Wake Me Up, d'ailleurs, que vous avez co-créé, je crois. Hein.
Oui, avec Maude, qui elle était à l'époque plus dans cette, qui était plus, qui s'inscrivait beaucoup plus en fait elle, dans cette démarche. C'est d'ailleurs elle, c'est une amie d'enfance. C'était 15 ans qu'on se connaît. Et en fait, on allait souvent prendre un pot et elle me ramenait à l'époque, elle me ramenait des pastilles de la vaisselle qu'elle avait formulées, elle, qu'elle avait passé au dimanche après m'a formulée. Elle me ramenait des shampoings solides. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est elle qui un jour m'a dit, mais viens, viens, je te montre comment on fait. Et puis, en fait, je suis tombée dedans. Voilà.
Vous êtes tombée dedans.
Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré trois mois et c'était terminé.
Et alors, quel est l'ADN de Wake Me Up Paris?
Et bien justement, en fait, j'essaye de faire évoluer la marque en fait en gardant cette vision de la consommatrice responsable qui s'interroge en fait sur nos impacts hein, que je suis devenue avant de lancer la marque. En fait, j'essaie toujours de. Alors avec le temps maintenant, en fait, avec toutes les recherches et tout le travail qu'on fournit là depuis presque un an, je suis en train de devenir une experte. Donc j'essaye en fait de garder cette vision de consommatrice. Hein. Et en fait, peu importe le stade d'engagement ou du niveau de prise de conscience de chacun, en fait, mon défi, le défi de la marque, reste d'embarquer avec nous en fait ceux et celles qui ont peut-être pas encore eu cette prise de conscience, comme moi avant. Et encore aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'amis autour de moi qui prêtent pas assez attention dans leur consommation en fait quotidienne des impacts environnementaux ou sur la santé, sur la routine beauté, et qui sont encore persuadés qu'aujourd'hui acheter un produit bio ou naturel ça ne va pas être aussi efficace qu'un autre et pas aussi agréable sensoriellement à utiliser. Et on y reviendra peut-être, mais en fait, aujourd'hui, j'ai deux produits là, dans ma gamme qui, en fait, que j'utilise plus ou moins, d'ailleurs autour de moi personnellement, avec mes amis ou avec des clients, pour leur permettre de passer cette transition en fait, pour changer sa manière de consommer la beauté. En fait.
Vous en parlez.
Voilà, et du coup, l'idée, en fait, l'ADN, c'est vraiment on veut pouvoir offrir de meilleurs produits, en fait, plus simples aussi, de rester simple, parce que c'est ce que je recherchais, universel et surtout naturel, mais en restant efficace, agréable à utiliser, et avec des jolis flacons, des jolis packaging. Vous ne verrez jamais, en fait, des dessins. Voilà.
Voilà. Et alors, quid du sourcing, c'est important pour vous? D'où viennent vos différents ingrédients?
Le sourcing est super, évidemment super important. La traçabilité, ça fait partie intégrante de notre démarche et de l'ADN aussi. C'est un énorme travail au quotidien. On privilégie en fait pour nos ingrédients déjà des cultures et productions locales, et ensuite un grade biologique s'il est disponible, mais surtout pas l'inverse. À l'instar, en fait, par exemple, une huile de noisette aujourd'hui, elle n'est pas certifiée bio, mais j'aurais pu aujourd'hui vous vendre une huile de noisette qui vient de Turquie et qui serait certifiée bio. Pour nous, ça a plus de sens la proximité avant le grade biologique.
Donc, l'huile de noisette, elle est produite en France.
Elle est produite en France, mais au sud-ouest, mais par contre, elle n'est pas certifiée bio aujourd'hui. Par contre, elle vient de Turquie.
Ouais. Ça, c'est quelque chose qui vous gêne ou
Pas du tout. Non, c'est juste au contraire. On défend en fait, on défend la manière dont on fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne privilégie pas forcément le bio. On ne privilégie pas l'ingrédient biologique, issu de l'agriculture biologique, mais l'ingrédient de proximité, en fait, la production locale. Ouais. D'ailleurs, on a même dû revoir en fait au début notre mode de fonctionnement pour respecter ce sourcing, puisqu'en fait au début avec Maud, quand on avait fait notre business plan, on avait fait aussi une super map produit en disant en septembre il y a tel produit qui sort, trois mois après tel produit, et en fait ça ne marche mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait en tant que jeune marque, en fait on est obligé de faire un travail énorme sur la veille avec nos fournisseurs pour voir ce qui était disponible, évidemment. Déjà sur la production de proximité, la production locale, parce qu'en dit proximité, il y a des choses qu'on ne trouve pas en France, donc je vais aller chercher peut-être en Allemagne, en Europe, voire plus loin. Et au-delà de ça, et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on essaye de composer avec ce que pouvaient nous offrir nos fournisseurs pour savoir quels produits on pouvait demain formuler et offrir tout en répondant aux besoins de nos clients. Et en fait, c'est dans cette démarche-là qu'on est là, qu'on n'est pas dans l'inverse, ce qui était peut-être plus traditionnel comme fonctionnement.
Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre aussi en compte, je ne sais pas, la saisonnalité, par exemple.
Forcément, il y a un moment donné, quand c'est travailler de manière raisonnée aussi. Et d'ailleurs, à côté de ça aussi, pour la petite anecdote, on s'est aussi rendu compte, on est tombé plusieurs fois sur des fournisseurs incapables de nous certifier ou de nous donner l'origine géographique par exemple pour des végétaux qui ont été transformés et qui composent un ingrédient. Et ça, c'est quand même aujourd'hui
problématique.
C'est problématique, et j'espère que demain ce sont des sujets qui vont être réglés, parce que si les fournisseurs aujourd'hui jouent pas le jeu, nous en tant que petite marque, on aura du mal aussi à évoluer dans cette démarche, en tout cas durablement.
Oui, et puis avoir surtout une démarche de transparence par rapport aux consommateurs.
Oui, c'est ça. C'est ah ben non, on n'y va pas hein, quand le fournisseur n'est pas en mesure de certifier l'origine.
Vous ne prenez pas le risque.
Non.
Alors, une petite question qui pique. Pourquoi le choix de l'huile de coco? Comment vous vous assurez de ces standards bio, du fait qu'il y ait un respect de la faune et de la flore locale?
Alors, sur ce produit-là, alors effectivement, le respect de la faune et de la flore, de toute façon, ce sont des choses évidemment qui font partie de nos préoccupations et de notre cahier des charges et qui fait partie du travail de sourcing. Ça fait partie aussi de la nature de nos échanges avec les partenaires fournisseurs de nos partenaires. Et pour l'huile de coco, alors avant de répondre pourquoi l'huile de coco, l'huile de coco, aujourd'hui, on travaille avec des partenaires qui ont intégré en fait un plan d'action responsable et qui travaillent avec des filières qui sont identifiables. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, il y a des fournisseurs qui peuvent vous dire que le produit vient de tel pays et qui adhère à tel organisme. Et finalement, derrière, s'il n'y a pas de documentation, il n'y a rien. Et en fait,
exactement.
On n'avance pas. Et on a fait les frais aussi. Pas sur ce produit-là, mais en voulant avancer avec d'autres produits, on s'est rendu compte qu'il y avait certains doutes. Et en fait, pour ce type de production, notamment l'huile de coco, en fait, il faut se diriger vers des fournisseurs qui peuvent fournir justement une certification, qui sont bien engagés dans une démarche en fait, de commerce équitable, qui sont forcément audités par des organismes extérieurs, en fait, parce que sinon, on n'a aucune garantie que la démarche est respectée. Et pour le standard bio, sur ce produit-là, à mon sens, sur cette matière première, en fait, il est moins préoccupant que le respect en fait, de l'environnement dans la culture ou le mode de récolte du fruit, puisque le cocotier n'est pas forcément... C'est un arbre qui n'a pas besoin d'énormément d'engrais ou de pesticides.
Oui, tout à fait. Voilà. Par contre, c'est plus effectivement le fait de trouver une personne ou même un animal, hein, parce qu'il y a des animaux qui sont utilisés pour aller chercher les noix de coco.
Exactement, c'est vraiment le mode de récolte et le mode de culture. C'est vraiment ça qui pose problème et c'est pour ça qu'il faut s'inscrire dans une démarche. En fait, il faut vérifier le plan d'action qui est mis en place par le fournisseur. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des fournisseurs qui ne s'engagent pas dans ce type de plan.
Bien sûr. Voilà. Donc, et ça, c'est facile à repérer pour le coup.
C'est un échange il faut être très très lourd, très très insistant auprès des fournisseurs parce que bizarrement ils sont même pas, ils vont pas d'eux-mêmes en fait nous téléphoner pour nous raconter comment ils fonctionnent en fait.
Vraiment que vous fassiez la démarche vous-même de demander comment ils travaillent, sinon
on passe mon temps là. Carla qui nous a rejoint en début d'année sur le développement produit, elle passe la moitié de son temps de la semaine à téléphoner et à échanger avec des fournisseurs et souvent à être plutôt insistante voire lourde pour essayer d'avoir les informations. Et c'est franchement c'est un vrai travail en fait, hein.
C'est pas du tout un réflexe
le réflexe du fournisseur quand on lui demande des informations sur une matière première ou un ingrédient, c'est de nous envoyer les fiches techniques, c'est-à-dire le composant de l'ingrédient. Mais par contre, tout ce qui concerne l'origine, le mode de production, sa relation avec la filière qu'il a mis en place, non, c'est pas du tout automatique. Et c'est à nous d'aller chercher les informations, de téléphoner, d'avoir le bon contact aussi, parce qu'il y a des contacts qui n'ont pas envie de s'embêter aussi. C'est très compliqué, c'est un gros travail.
Ouais, c'est un gros boulot, effectivement. Et est-ce que vous imaginez, je ne sais pas, un jour remplacer cette huile par une autre huile ou une huile de coco produite dans les dom-toms, par exemple.
Alors, pour vous répondre, je vais aussi vous répondre pourquoi on a choisi l'huile de coco, parce que c'est vrai qu'on aurait pu rester sur nos huiles locales ou européennes, peut-être.
Tout à fait.
Et en fait, l'huile de coco, c'est une huile qui est formidable en termes de propriétés. Et en fait... pas que sur ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a une odeur, en fait, un parfum naturel, qui est un parfum qui est souvent synthétisé dans les produits cosmétiques conventionnels.
Effectivement.
Et en fait, c'est un super produit, c'est un produit phare, en fait, pour aider les gens à convertir leur routine et passer le cap en douceur vers une routine naturelle. Moi, j'ai réussi à convertir des amis qui juraient, en fait, que par des produits conventionnels chimiques qui faisait pas forcément du bien non plus à l'environnement. Et en fait, grâce à deux produits de notre gamme, notamment à l'huile de coco et au carré démaquillant, parce qu'en fait, c'est des produits qui changent pas énormément leur routine en termes de gestuelle ou d'odeur. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour les carrés démaquillants, la gestuelle du démaquillage, en fait, avec un carré réutilisable, lavable ou un coton jetable, en fait, est la même. Avec la coco, qui en plus est un produit génial parce qu'il est, il peut servir de démaquillant, de soins capillaires, de soins corps, pour les ongles.
Oui, il est hybride.
Ouais.
Et alors, vous avez très peu de produits. C'était une volonté de départ ou ça s'est imposé à vous, en fait?
Alors, non, ça s'est imposé. Ça s'est carrément imposé à nous, en fait, parce qu'en fait, notre ambition, donc, elle est de développer tous les essentiels d'une beauté naturelle et engagée, et surtout universelle et minimaliste. Hein, comme vous l'avez compris, je sortirai pas, par exemple, 10 produits gel douche avec 10 parfums différents. Enfin, non, ça n'a pas de sens. Ou un gel douche pour peau sèche, pour peau grasse. Non, ce sera toujours universel. Et en fait, l'idée, c'était qu'à l'époque, on avait l'idée, on ne voulait pas attendre. Et pour ne pas attendre, il faut sortir des produits qui sont, entre guillemets, rapides à commercialiser. Aujourd'hui, ouais, sur les produits bruts, sur la gamme, la petite gamme brute qu'on a aujourd'hui, les dossiers réglementaires et la R&D, il n'y a pas de R&D. Ça, c'est sûr, parce que c'est du travail de sourcing qu'on avait fait en amont. On avait passé 6 mois à faire ce travail-là. La R&D, il n'y en a pas. Et en revanche, en même temps qu'on a commercialisé les produits en mars l'année dernière, on a tout de suite enchaîné en fait, avec notre laboratoire partenaire sur la R&D, sur les produits qui vont arriver. Parce que c'est la R&D, c'est super long. Ça fait, ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille déjà sur les produits que, du coup, dont vous n'avez pas connaissance, mais qui arriveront bientôt.
Et donc là, les produits qui sont sortis, depuis l'année dernière, ce sont principalement des huiles.
Oui, et les produits bruts, si on a un exfoliant aussi, qui est une poudre de noyau de prune, qui est local aussi. Mais, et ça aussi, et du coup, en fait, ces produits-là, c'est pas anodin non plus. On a aussi l'idée qu'on a des produits qui vont sortir, qui vont nous permettre d'être personnalisés, en fait, avec les huiles de soins qu'on a déjà.
Ah oui.
Voilà. Mais comme dit, comme je pense que vous avez compris, je pensais que, en fait, le développement de la gamme serait plus rapide que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est vrai que la R&D prend un temps dingue. Il y a eu le confinement, il y a eu plein de choses.
Tout à fait.
Mais on travaille activement pour développer la gamme. Et c'est pas l'idée, c'est de continuer à la développer. C'est pas de rester sur les petits produits qu'on a aujourd'hui.
Ouais, d'accord. Et justement, vous avez sorti des lingettes démaquillantes réutilisables. Ouais. Ce type de produit, vous comptez le développer aussi? Vous comptez effectivement apporter des accessoires, si je puis dire, au rituel beauté que vous avez mis en place?
Ouais. Alors déjà les lingettes démaquillantes, ça s'inscrivait clairement dans la démarche, comme je vous ai expliqué. Effectivement, c'est un produit. Moi, ça a été un des premiers produits où j'ai commencé à changer avec lequel j'ai réussi à changer ma routine beauté, puisqu'en fait, je changeais pas la gestuelle et puis voilà. Puis après, on court pas non plus au supermarché parce qu'on a plus de carré démaquillant, de coton jetable. Enfin, c'est génial. Et en fait, on continue d'étudier en fait la possibilité d'offrir d'autres produits du quotidien dans la salle de bain. On cherche toujours cette production de proximité et responsable. En fait, les carrés démaquillants, ce qui est important, c'est qu'on a réussi en fait à les on les fait assembler par un ESAT qui est en Alsace, qui c'est des personnes en situation de handicap ou de réinsertion professionnelle qui travaillent sur nos produits. Donc il y a une vraie démarche, et en plus de ça, voilà, ça a vraiment du sens pour embarquer avec nous, comme j'expliquais en fait les gens qui n'ont pas eu cette prise de conscience. Pour les autres accessoires, on a des pistes pour de nouveaux accessoires. Maintenant, c'est pas la priorité, donc c'est plus des choses qui sortiront peut-être après la nouvelle gamme qui va arriver.
Et alors, comment vous avez, on en parlait à l'instant, comment vous avez traversé la période du confinement d'un point de vue personnel, mais également en tant qu'entrepreneuse?
Alors, d'un point de vue personnel ou professionnel, j'en ai ressorti du bon et du moins bon. Sur le plan personnel, franchement, le bon est que j'ai pu voir évoluer en fait au quotidien mon fils de 5 mois. Et ça, franchement, on s'en rend pas compte, mais ça n'a pas de prix.
Ça a pas de prix.
Non, mais lui, à côté de ça, il a appris à tenir une réunion en visioconférence avec moi. Voilà.
Point de vue à tout. Hein.
Ouais, voilà. Je ne sais pas si c'est le bon ou moins bon, mais enfin bon. Et puis le moins bon, du coup, c'est qu'en fait, c'était sportif. C'est qu'en fait, le soir, j'étais plus fatiguée pendant la période de confinement qu'en temps normal. Quoi, parce qu'en fait, faire évoluer, voir évoluer son bébé et faire évoluer sa boîte en même temps, c'est hyper fatigant.
Ouais, c'est sport. Hein.
Ouais. Et après sur la partie entrepreneuriale, finalement ça touche à ma sphère personnelle, donc finalement c'est un peu la même chose.
C'est imbriqué.
Mais ouais, par contre pour la partie professionnelle sur Wake Me Up, c'est assez bizarre, mais on a vraiment profité de ce temps off pour travailler notamment avec Carla et mon labo partenaire en fait sur la gamme de produits à venir. Je ne pensais pas du tout. Alors, autant notre laboratoire, il était aussi à fond sur les gels hydroalcooliques. Bah voilà. Ouais. Ils ont été top parce qu'on a pu quand même continuer à avancer sur la partie R&D. Ils ont continué à nous envoyer des essais. On a, voilà.
D'accord.
Et du coup, en fin de compte, avec ces 3 mois de temps plus ou moins off, en fait, on a avancé quasiment 2 à 3 fois plus rapidement sur les produits qui, j'espère, sortiront là en septembre finalement. Donc, en fait, du bon, professionnellement, beaucoup bon.
Ouais. Donc, ça n'a pas été une source d'angoisse particulière par rapport à la suite, de la marque, à son développement.
Non. Alors après, il y a eu des reports sur certains sujets. C'est les opérations de communication, des implantations retail aussi qu'on avait commencé et forcément qui ont été décalées. Mais pas de gros changements majeurs et plutôt du bon à en ressortir. Ouais.
D'accord. Et alors, c'est quoi la prochaine étape pour Wake Me Up Paris ?
Oh là là, il y en a plein. Il y en a plein. La première, c'est de continuer à structurer l'équipe pour avancer plus vite et plus loin. Continuer surtout à nouer des partenariats pour distribuer la marque et véhiculer les valeurs. Travailler sur le retail parce qu'on ne va pas rester.
Ouais, le retail.
Ouais, parce que c'est important, surtout quand on est une jeune marque. Les gens ont besoin de sentir, de toucher. Voilà. Et dans l'immédiat, y compris, en fait, c'est le développement de la gamme. On est à fond dessus, là. On bosse comme des dingues pour pouvoir sortir ça à la rentrée. Et enfin, parce que c'est vrai qu'on parle partout, on a tendance à parler même sur le site, sur la com, etc., de routine beauté. Mais aujourd'hui, on a nos huiles, on a l'exfoliant, le carré démaquillant. Mais on n'a pas encore tous les produits de cette routine. Donc, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte qu'on puisse vraiment parler de routine et que je puisse présenter les produits qui vont faire partie de cette nouvelle routine, en fait.
Ouais, d'accord. Ça sera pour quand, vous pensez ?
J'ai appris un truc depuis que j'entreprends, c'est de ne pas donner de date. En fait, on ne les respecte jamais parce qu'il y a toujours, des imprévus. Ouais. Mais je ne vais pas être trop précise, mais j'espère pour la rentrée.
Septembre, octobre.
À l'automne, ouais.
D'accord. Et pourquoi ce nom ?
Eh bien, tout simplement, en fait, réveille-moi pour rappeler la prise de conscience que j'ai eue et la prise de conscience de manière générale. Donc, mais par contre, ça sonnait mieux en anglais. Donc,
voilà. D'accord. Merci beaucoup, Morgane.
Merci, Chantal.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.